Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Olivier Milsan qui est CMO de DeepReach. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. On va parler de marketing local, de géolocalisation. Tout d'abord, comment tu en es arrivé à DeepReach ?
Alors, je suis arrivé à DeepReach par des choses assez naturelles où j'ai été chassé pour ce poste-là. DeepReach, c'est une société qui est assez jeune et je l'ai rejoint 2-3 ans après leur début d'existence, donc il y a à peine 2 ans. Enfin oui, tout juste 2 ans.
Voilà, c'est okay. Ça. Et alors, avant d'être CMO, tu avais quel parcours ? Tu avais eu quel style
alors,
de boîte ?
Alors, moi, je suis CMO depuis pas mal de temps dans différentes boîtes. Donc, avant DeepReach, j'étais CMO de Welcome to the Jungle. Avant ça, j'étais entrepreneur. J'avais créé une société dans la musique tech. On faisait des studios de musique tout connectés pour les entreprises et les lieux d'accueil.
Sympa, ça.
Un truc.
Comment ça s'appelait, celle-là ?
Ça s'appelait Jamset.
Jamset.
Qu'on a dû arrêter parce que du jour au lendemain, à cause du Covid, on avait plus de clients, c'est-à-dire plus d'hôtels et plus de sièges d'entreprise. Mais c'était une super expérience, mais ça, on aurait aimé la continuer, mais voilà, ça a été par la force des choses impossible. Et avant ça, j'ai été directeur marketing CMO de plusieurs SaaS qui se sont fait racheter les uns les autres.
Donc toujours très tech, hein. Market et tech, on va dire, c'est ton
tech,
combo.
SaaS B2B, tech, c'est vraiment
bien.
Mon truc.
On est en mode France Digitale, en mode Silicon Valley. Là.
Ouais, mais un peu international aussi. Les boîtes où j'étais avant, il y avait une boîte canadienne, américaine, néerlandaise. Donc,
ouais. Combien d'années chez Welcome to the Jungle, qui est quand même une société
Non, j'ai pas fait très longtemps, j'ai fait 6 mois.
6 mois, ouais. D'accord. Et DeepReach, par contre, plus de 2 ans.
Ça fait 2 ans, oui.
Alors justement, on va arriver sur DeepReach, donc qui est la société où tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que tu peux effectivement la décrire en quelques mots, voilà, le nombre de personnes, comment elle s'est développée, et puis ce secteur de la tech locale, pour que les auditeurs comprennent vraiment de quoi il s'agit.
Oui, en fait, la tech locale, ça existe depuis un petit bout de temps. En fait, DeepReach a été créé par le CEO, enfin l'ancien CEO de SoLocal, Pajoun, la personne qui a fait toute la transformation de Pajoun en SoLocal, en une entreprise tech, qu'il a quitté en 2018 pour créer DeepReach. Et le positionnement de DeepReach, c'est d'être une ad tech, une technologie de pub qui va piloter tous les réseaux publicitaires digitaux, donc Google, Facebook, Snapchat, tout le monde du display, pour faire en sorte que tous ces réseaux-là se comportent de façon très précise quand on veut faire de la géolocalisation des campagnes. Mmh. Et je t'expliquerai ça un peu plus tard, mais en fait, ça a plein d'applications différentes. Et en fait, le local, ça existe depuis très longtemps. Mais là, cette façon de faire du local est complètement nouvelle et permet d'aller chercher surtout les gros annonceurs, enfin les petits comme d'habitude, mais aussi les gros annonceurs qui comprennent un peu l'utilité d'aller s'adresser à des personnes en proximité et de façon un petit peu différente que les grosses campagnes nationales.
Pour comprendre un petit point un peu tuto pour nos auditeurs, comment tu définis en quelques mots la tech ? Et juste pour bien comprendre, ce que tu dis, c'est que les réseaux sociaux sont au cœur du modèle, puisque l'achat local se fait à partir de Facebook, d'Instagram, de TikTok. Enfin, vous achetez localement, finalement, pour le compte de ce social media.
Oui, alors la tech, tout simplement, en fait, nous, on est une société technologique, donc on fournit une plateforme qui est utilisée par les annonceurs ou par les agences directement. Donc, on n'est pas une agence, par exemple, on ne fait pas de créa, on ne fait pas de stratégie média. Mmh. On est comme si on était un Google ou Meta, sauf qu'on est une surcouche de ces réseaux-là pour les agences, pour faire ce que, justement, les réseaux publicitaires font mal, c'est-à-dire géolocaliser les campagnes en nombre. Mmh. Et donc, c'est pas que du social, c'est aussi du search. Donc, on est intégré avec tout l'univers Google, social avec tout l'univers Meta, mais aussi Snapchat.
D'accord.
Et aussi ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire tous les réseaux de sites et applications premium sur les formats type bannière, vidéo, audio digital.
D'accord.
Et ça permet du coup d'aller toucher tous les réseaux publicitaires, mais de façon très localisée, ce qui est complètement nouveau.
Ok, donc ça couvre vraiment tous les médias adaptés, spécialisés local.
Ouais, et il faut être sur tous les médias en plus, quand on fait du local, sinon c'est pas suffisant.
Alors, on arrive justement sur le marketing local. Tu as commencé à en parler, ça va permettre de le comprendre un peu mieux. Comment tu définis aujourd'hui ce marketing local? Comment il a évolué en quelques mots? Parce que c'est vrai qu'on sent que ça se localise pas mal côté annonceur aussi. Et voilà, et un peu les enjeux que tu vois de ce secteur et notamment du retail qui est assez friand de ce type de solution.
Ouais, bah en fait, il y a deux phénomènes qu'on voit depuis pas mal de temps. Le premier, c'est autour de la data des données personnelles. Nous, on n'utilise pas de data de données personnelles. On n'utilise que la data des campagnes. Donc, on a fait 40 000 campagnes. Et donc, on utilise cette connaissance de savoir si dans la banlieue de Troyes, il faut mieux mettre tel type de mix média avec tel type de budget et comment ça va fonctionner. Parce qu'en fait, on se rend compte que les données personnelles sont traquées de façon assez souvent abusive. C'est-à-dire que les annonceurs mettent énormément de moyens dans la data, ce qui fonctionne dans certains cas, mais très souvent, en fait, la rentabilité de tous ces investissements dans la data n'est pas forcément intéressant. On voit que ça ne remonte pas forcément bien dans la façon de créer des campagnes. En revanche, ça coûte très cher, donc ça plombe un peu la rentabilité des campagnes. Donc nous, on essaie de ne pas utiliser de données personnelles, et c'est ce que permet de faire le local, parce qu'on ne va pas cibler un individu, on va cibler une zone. Mmh. Et on va dire, par exemple, on travaille avec un concessionnaire auto, on sait que c'est un concessionnaire premium, donc on sait que potentiellement, ces prospects sont dans tel ou tel quartier.
D'accord.
Et la deuxième chose...
Donc ça, pour reprendre ce que tu dis, c'est vraiment un peu de l'intelligence du case study où tu sais, comme tu disais, que sur trois, il y a plutôt cette attente, ce média, ce type de secteur. C'est vraiment, il faut pas mal d'expérience en la matière de campagne.
Ouais, il faut avoir fait beaucoup de campagnes et avoir de la data de ces campagnes-là. Okay. Mais le deuxième phénomène autour de la data, c'est-à-dire switcher des données personnelles vers plus des données géographiques, il y a un autre phénomène aussi, c'est que les utilisateurs sont de plus en plus aguerris au fait d'être traqués. Donc, ils ont des ad bloqueurs, ils acceptent pas les cookies, donc le taux de consentement des cookies est de plus en plus faible. Donc, quand on est annonceur, c'est difficile d'aller chercher de l'inventaire qualifié. Et donc aussi, les consommateurs cherchent une relation de proximité avec les marques. Et ça on l'a vu vraiment, c'est vraiment un phénomène post-Covid où on se rend compte que les marques qui sont trop globales, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, nous, l'idée, c'est d'aller voir toutes ces marques-là et de leur dire... continuez à faire, si vous voulez, vos campagnes nationales, mais essayez d'en mettre aussi de façon géolocalisée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le même discours en arrosant partout et en laissant faire les réseaux publicitaires, vous allez choisir précisément où vous allez afficher vos publicités. Vous allez mettre le bon message au bon endroit et vous allez pouvoir économiser du budget et trouver beaucoup plus de performance en faisant cette méthode-là, c'est-à-dire en arrêtant de diffuser partout, de laisser faire les algos des médias, mais en précisément appliquant des stratégies qui sont locales et multilocales. C'est pour ça que c'est vrai. Super. Que ça travaille bien avec les retailers, mais pas que. On a aussi des clients qui sont dans l'e-commerce ou qui sont dans les services et qui se disent « je sais qu'à peu près ma clientèle est là ou se comporte de façon différente dans tel ou tel lieu et je vais adapter mes stratégies de façon locale. »
D'accord. Et donc, il y a plutôt une tendance, tu trouves, à la hausse sur l'aspect budget publicitaire pour aller vers le local. Tu sens une tendance forte là-dedans depuis 2-3 ans, depuis le Covid notamment.
Oui, alors nous, on le ressent clairement. On fait 70% de croissance, mais on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a d'autres acteurs qui font ça aussi très bien. Et tout le monde grandit. Donc, le gâteau est de plus en plus gros.
C'est un jeu vertueux, quoi.
C'est un jeu vertueux. Mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment en avance en France.
Sur ce business, on est bon, quoi.
On est très bon sur la tech en général en France. Parce qu'on est bon en maths et qu'on est bon en créa. Et okay. Je ne sais pas pourquoi, il y a un écosystème. Alors, merci à Criteo, merci à Tite.
Je pensais
merci
à Jean-Baptiste Rudel. Tu avais lu son petit bouquin qui était marquant. Mais lui, il a été pionnier. Hein. C'était quoi, il y a une dizaine d'années,
bien sûr. Et puis, ils ont ouvert justement toute une génération de professionnels qui sont sensibles à ces sujets et qui maîtrisent ces sujets. Et globalement, en Martech, on est très bon en France. Et on le voit, nous, parce qu'on a ouvert l'Angleterre et l'Allemagne. Et on regarde un peu ce qui se fait aux US. On est clairement en avance en France.
Donc c'est un des domaines de la tech où la France est vraiment en pointe, clairement. Tu trouves. Ok, très intéressant que tu racontes ça. Et d'ailleurs, juste sur Criteo, on ne va pas faire tout le business case Criteo, mais on est d'accord qu'il y a eu quand même un petit revers de médaille à un moment sur l'histoire des données personnelles et des cookies. Un business qui, au départ, finalement, était assez ouvert. Et puis, face aux dernières années, finalement, il y a eu quand même un peu plus de rétention Et ça a été un peu plus compliqué, on est d'accord.
Évidemment, c'était plus compliqué pour eux. Après le débat, est-ce que c'était une bonne chose ou pas de fermer les cookies tiers aux utilisateurs et de les donner plutôt à des Facebook et à Google qui maintenant maîtrisent complètement la donnée. C'est un autre débat. Donc...
D'accord. Ça, c'était quoi? C'était une réglementation? C'était décision de la Cour européenne, etc.
C'est que les cookies tiers vont être abandonnés par Google. L'ont été abandonnés par Apple. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur un site, vous ne pouvez pas être retraqué par un autre site pour savoir que vous êtes allé sur le premier site. C'est-à-dire que vous allez sur Bricorama, vous cherchez une table, vous ne pouvez pas être retargeté aussi simplement qu'avant.
Ça a été réglementé.
C'est ce que tu appelles un cookie tiers. Hein, comment tu le différencies à un cookie classique?
Les cookies tiers, c'est les sites qui s'échangent les cookies entre eux et qui permettent du coup de faire du retargeting. Oui.
Donc c'est ça qui a été un peu banni ces dernières années.
Alors c'est en train d'être banni de plus en plus. Donc ce qui fait que l'inventaire publicitaire baisse au profit des Meta et des Google qui eux par contre connaissent parfaitement, et de Amazon qui connaît parfaitement votre usage d'internet et qui est capable de vous donner de façon beaucoup plus précise des publicités. C'est aussi pourquoi il y a tout le développement de ce qu'on appelle le retail media, c'est-à-dire tous les retailers commencent à se comporter en tant que régie publicitaire comme l'a fait Amazon, mais aujourd'hui les Leroy Merlin, Système U, Auchan et autres ont leur propre réseau publicitaire et permettent de faire ça. Okay, donc, où est-ce qu'on en était au début? C'était tout ça pour dire que nous, on n'adresse pas du tout ces données personnelles et on se concentre sur la donnée géographique et on trouve beaucoup plus de performance en faisant ça directement.
Deux petites questions ping-pong par rapport à ce que tu dis qui sont intéressantes. Est-ce que sur les contenus, tu vois une tendance à la hausse? Parce que là, vous êtes plus sur le média, tu disais bannière, social ads, etc. Est-ce que la tendance elle reste très forte sur le paid ou tu sens quand même une volonté d'avoir un peu plus de contenu, photos, vidéos, d'agrémenter un peu les créations? Comment tu vois cet aspect, cet équilibre, je dirais?
Oui, on le voit de plus en plus. On a beaucoup de clients qui ont des réseaux de points de vente, des retailers dans la majorité des cas. Et même sur ce qu'on appelle l'organique, c'est-à-dire la gestion de leur page locale ou de leur communication locale, ils ont aujourd'hui toute une génération de gens qui sont des community managers locaux et qui font leur propre communication locale. Et donc on n'est pas développe. Sur ce sujet-là, mais il y a plein de sociétés comme Partout, Yext, qui sont sur ces aspects-là pour développer la notoriété organique des points de vente au local, pour être capable de s'adresser, comme nous on le fait en pub, au guy next door, à la personne qui est autour du
ça, point tu vois, ça se développer aussi.
Bien sûr, ouais, ça se développe énormément.
Okay. Juste sur le marché du local ads, qui est intéressant. Alors, tu as mentionné ce local, puisqu'il a été, il est passé par ce local, votre patron. Finalement, qui était historiquement sur ce business du marketing local? Tu as toujours eu Google, tu as eu Page Jaune. Comment tu définis un petit peu ce marché?
C'est un marché qui existe depuis le début de la pub. Hein. C'est l'affichage local, c'est historiquement...
Les deux coups, évidemment, les afficheurs.
Même les prospectus qui étaient distribués dans les boîtes à lettres qui sont en train d'être complètement abandonnés, ce qui revient du coup au digital à des gens comme nous. Mais c'est depuis le début de la pub, c'est du local. Hein, parce que c'est
CRM, marketing, point de vente, prospectus. C'est vrai que ça a toujours existé.
Ça a toujours existé. Après, le mass-média est arrivé avec la radio, télé et puis le digital mass-média. Mais aujourd'hui, on revient justement parce que la technologie le permet à des approches beaucoup plus locales parce qu'on peut le faire de façon scalable sur des centaines de points.
Tu vois un petit changement de mentalité là-dessus sur la France, parce que c'est vrai que on le sait, les commerçants ou le local, il a été quand même pas mal touché il y a 3 ans. En même temps, là, on rentre dans une phase d'inflation. Tu sens que les gens veulent quand même avoir un peu plus d'agressivité sur le marketing et la com, parce qu'on sait que c'est parfois un peu moins la tradition française d'investir en marketing. Mais on sent que vous sentez que les gens veulent faire revenir évidemment les gens en magasin malgré l'inflation et investir des budgets, même s'ils n'ont pas tous, eux, des gros moyens.
Alors, ce n'est pas une question d'agressivité, c'est une question de performance, en fait.
Performance.
C'est-à-dire que nous, quand on prend un budget qui passe par notre techno, un budget qui était géré de façon traditionnelle au national, on arrive à tout de suite x2 en termes de performance, par exemple en taux de clic. À partir du moment où on arrête d'arroser partout et on en met sur les bons endroits.
C'est du ciblage, quoi. C'était plus efficace dans ces actions marketing.
C'est l'efficacité parce qu'on diffuse uniquement là où ça compte, avec le bon message adapté au local et avec le bon mix média local. Donc en fait, on ne fait pas plus de publicité, on la fait beaucoup mieux, de façon plus en proximité.
Plus vertueux, comme on dirait.
Exactement. Et puis, je pense que c'est... C'est aussi une façon de pas diffuser des publicités qui servent à rien sur des endroits où il n'y a pas de pertinence. Parce que si vous laissez Google Meta faire, en fait, ils vont optimiser leur pub par rapport au taux de clic. Donc, vous allez avoir des zones où vous allez avoir énormément d'affichage et puis des zones qui vont être complètement oubliées. Et quand vous êtes un réseau de retailers avec, je sais pas, 400 magasins, vous voulez servir de façon équitable chacun de vos magasins ou alors servir ceux qui ne vont pas. Tandis que si vous faites qu'une campagne Google ou Facebook, ils vont servir en majorité les grandes agglomérations. Donc, tous vos clics vont être sur Paris et puis les autres zones vont être oubliées. Donc, ça permet aussi de redistribuer de façon harmonieuse ces plans médias. Ouais. Et c'est là où on trouve de la perf pour pas forcément plus de budget.
Ok, très intéressant. Et ça veut dire que même en termes de géolocalisation, donc tu peux peut-être en parler sur la géolocalisation, ce que ça demande exactement.
Bah, ce que ça demande, c'est d'être capable de paramétrer les réseaux publicitaires de façon très fin. C'est-à-dire que si vous allez directement dans Google et Meta, vous allez soit rentrer un code postal, soit rentrer ce qu'on appelle un radius, c'est-à-dire un point avec un cercle autour pour définir votre zone. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va être capable de faire des vraies zones de chalandise, c'est-à-dire avoir toute une zone délimitée qui va peut-être concerner plusieurs codes postaux ou des dizaines de petits rayons et qui vont permettre de retracer les zones de chalandise historiques des magasins, voire d'aller chercher d'autres zones et de comprendre comment les gens cliquent et comment les gens convertissent dans chacune de ces zones. Donc, par exemple, je sais pas, vous prenez... par exemple, on travaille avec Burger King, ils ont 400 magasins franchisés. On se rend compte qu'il y a des zones où ça va cliquer beaucoup plus sur des demandes de drive, là où ça va plus être sensible sur du trafic en restaurant directement. Et donc, vous allez pouvoir adapter vos budgets à l'intérieur d'une même zone, là où avant, en fait, vous cliquez un peu partout, enfin, vous distribuez un peu partout. D'accord. Donc, on est beaucoup plus précis, même à l'intérieur d'une zone, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
Et le ROI, c'est vraiment le clic, hein. Tu le mentionnes souvent, c'est vraiment ça qui fait que vous demandent vos clients, c'est de générer davantage de, je dirais, ça peut être une appli, un site, c'est ça qui vraiment est le résultat. Alors, je dirais, concret.
Il y a plusieurs KPI qu'on peut traquer, comme dans toutes les campagnes, il peut y avoir des campagnes de pure notoriété, et donc on fait ce qu'on appelle du branding local, c'est-à-dire qu'on va, diffuser un message sur une zone en particulier. Et après, il va y avoir, quand on travaille avec des réseaux de magasins, soit des taux de clics qui vont aller sur une landing page, mais soit aussi de la mesure de trafic en magasin. Donc là, on tombe dans les logiques de ce qu'on appelle le drive to store. Nous, on travaille avec des partenaires pour cette mesure-là. On ne le fait pas nous-mêmes. Nous, on ne fait que piloter les médias. Mais ça, c'est des choses qui se font beaucoup aussi, avec des biais qu'il faut connaître, mais qui permettent d'estimer comment une campagne a été suivie de fait, c'est-à-dire de gens qui viennent dans votre magasin directement et combien ça coûte. Donc, est-ce qu'on rajoute de l'argent ou est-ce qu'on en diminue et ainsi de suite.
Non, super intéressant. Alors justement, j'ai lu une étude, peut-être tu as dû voir ce genre de fait passer, que la France se décentralise énormément depuis le Covid, évidemment, l'a expliqué, hein, les gens un peu déménagés, ça s'excentre de plus en plus. Ça, j'imagine que tu confirmes cette évolution. Et tu vois, alors aussi j'entends pas mal que les villes, ça bouge pas mal aussi dans les nouvelles villes qui comptent en France. Par exemple, Nantes a l'air de beaucoup booster, ou l'Ouest. Peut-être reparler pour toi des nouveaux bastions, tu dirais, de ce qui bouge bien en ce moment en France en termes d'agglomération.
Je ne saurais pas trop te répondre là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai mouvement de décentralisation et des populations, mais aussi des
business.
Des business et des façons de faire du marketing. Je pense que tout a été, dans le monde de la communication, très centralisé à Paris et dans le Nord. Parce que dans le Nord, il y a tous les grands retailers aussi.
Il y a du monde.
Et que cette décentralisation des populations a fait comprendre aussi aux directions marketing qu'il fallait également décentraliser leur communication à eux. C'est pour ça qu'ils donnent de plus en plus de poids aux magasins et aux responsables locaux d'organiser leur communication. C'est quelque chose, par exemple, qu'on fait avec des gens comme Leroy Merlin. Plutôt que de faire des campagnes nationales, ils vont avec l'outil DeepReach penser des templates de campagne qui vont être commandés directement par les responsables du magasin. Donc, on va avoir un magasin qui va être sur un besoin de recrutement. Donc, il va faire une campagne pour recruter des collaborateurs, là où l'autre va faire une promo sur les barbecues parce qu'il y a les beaux jours, là où l'autre va faire une promo sur autre chose. Et donc, la capacité de s'adapter au local, ça reflète aussi ce mouvement de décentralisation. Et donc c'est ça.
Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça peut aussi revaloriser des régions qui sont un peu moins sous les projecteurs, je dirais, et qui vont, ça peut aussi un peu remettre un peu d'équilibre. Peut-être sur des zones un peu moins connues, quoi.
Oui, parce que ça redistribue mieux la publicité et ça permet de créer une relation entre la marque et ses consommateurs très locale. Et donc là, on peut avoir un message qui est beaucoup plus vertueux que quelque chose qui vient d'en haut. Nous, on essaie de recréer cet écosystème local. Ouais.
Alors, Olivier, on arrive sur un peu la dernière partie du podcast. Alors, des quelques exemples d'OP, tu as mentionné une chaîne qui vendait un burger. On peut en parler d'autres. Quelle best practice tu verrais inspirant, toi, du marché ou quelques petits exemples de case que tu trouves intéressants?
Nous, on a plusieurs façons de faire, de travailler avec des annonceurs. Soit on travaille dans ce qu'on appelle le multilocal. C'est-à-dire que ça reste centralisé par le siège et après, c'est appliqué de façon géo-targetée sur chacune des zones. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec, Leroy Merlin, Mobalpa, Beauconcept, avec Publicis, ROX, enfin plein d'agences. Il y a ce qu'on appelle chez nous marketplace, c'est-à-dire la capacité des magasins à commander directement. Donc là, c'est ce qu'on fait aussi avec... des gens comme Système U, Lidl, pas mal d'acteurs du retail. Et on a aussi des acteurs, plutôt des régies, par exemple la régie de Ouest-France ou pas mal de gens dans la PQR.
Vous avez les médias et les agences aussi comme clients.
Oui, surtout les agences en fait.
Nous, plus agences qu'annonceurs.
Oui, on traite très peu d'annonceurs en direct. Ce n'est pas notre stratégie, c'est plutôt d'aller...
Les agences médias.
Oui, que les agences utilisent nos outils. Donc des best practices, en fait, il y en a autant que de types de campagnes. Je peux citer un exemple. On a travaillé avec une association qui était une association de santé qui, pendant le Covid, mettait en place des dispositifs de call center pour les étudiants qui étaient en détresse pendant le Covid, en détresse psychologique. Et ça suivait, tout leur investissement suivait précisément le développement du Covid dans telle ou telle région. Donc ils adaptaient géographiquement leur communication par rapport à un fait externe qui était le développement du Covid pour trouver aussi la plus de résonance en local. Et des dispositifs comme ça, on en a plein. Ça va du petit annonceur local à la très grande chaîne qui va être capable de mieux répartir ses budgets pubs.
Donc tu disais retailer, e-commerce, service, c'est assez diffus.
Oui, et puis après via des partenaires, on a aussi des dizaines de petits annonceurs, je crois qu'on a plus de 2000 annonceurs qui sont des annonceurs très très locaux qui vont avoir des concessionnaires audio, des chaînes de magasins bio locaux, enfin il y a tout type d'annonceurs.
Plein de choses. Et de plus en plus, ils créent leur page locale. Ça, c'est une tendance lourde. Oui. Le propre petit magasin, Leroy Merlin d'Angers, va développer sa propre page.
Oui, il va prendre ses propres photos, va mettre en avant ses collaborateurs.
C'est du taf. Ouais.
Oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et puis ça se fait de plus en plus. Parce que les gens ont intégré les réseaux sociaux et la façon de s'adresser à leur communauté. Donc c'est de plus en plus naturel.
Parfait. Alors, une petite question. Maintenant, on arrive à la dernière partie. Alors oui, si j'avais quand même une question là de plus de curiosité, parce que comme tu as la casquette marketing, tu dois aussi faire la promotion de ta boîte, de Deep Reach. C'est sur quel levier tu vas là-dessus? Donc, c'est beaucoup, j'imagine, des salons, du PR, du média. Comment tu conseilles là-dessus? Parce que c'est toujours forcément... un peu l'effet cordonnier, il y en a un peu moins de temps forcément que des campagnes directes de business, mais en quoi tu crois là-dessus, toi?
C'est un mix de campagnes LinkedIn, Facebook, comme on peut le faire pour nos clients, qu'on fait pour nous-mêmes. Google aussi, un petit peu en search. Ça va être des partenariats avec des éditeurs. Là, en ce moment, on a une campagne qui tourne avec Stratégie, LSA. Et puis, ça va être des événements sur lesquels on va se greffer. Soit des événements très one-to-one, soit des événements un peu plus industriels. C'est un peu de RP, mais plutôt en direct, pas via agence. Et puis, c'est une vraie stratégie de contenu, d'être capable de créer des éléments de contenu qui vont intéresser nos audiences. Donc, on a une newsletter bimensuel sur toute l'actualité du marketing local en général. Super. On produit des white papers, des articles, on fait des interviews, on fait des podcasts. Voilà.
Beaucoup de trucs. Tu as une équipe de combien de personnes là-dessus?
J'ai une équipe de 5 personnes. On n'est pas beaucoup, mais on est très productifs.
Bon, on va les saluer. Alors, les 5, dis-moi.
Alors, Neil, Philippine, Pierre, Louis et Mustapha.
Voilà. Bon, bah, parfait. Et les boss donc, de Deep Reach, on va les saluer aussi.
Donc, Jean-Pierre.
Jean-Pierre, oui. Voilà. Ah bah oui, Jean-Pierre, effectivement, que tu as mentionné. Et combien de personnes au total dans l'équipe?
On doit être une 60aine.
60aine, ok. Qui s'est développée en invest, série A, et comment ça s'est développé?
Plusieurs tours de table. Un gros tour, c'était avant que j'arrive, en 2019 ou 20, je ne saurais plus te dire, de 8,5 millions. Et après des investissements un peu successifs. Mais voilà, pour l'instant, on ne fait pas de grosses levées. On fera une grosse levée le jour où on aura bien sécurisé l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont nos deux gros marchés, qui sont des marchés bien plus gros que la France et qui démarrent très bien. Et quand on aura sécurisé ça, on se posera d'autres questions.
Bah, bravo, c'est une belle paire. Enfin, tout ça en combien d'années?
En 4 ans.
Pas mal, c'est rapide, dis donc. Angleterre. Et des bureaux en Angleterre, en Allemagne, ou tout ça plutôt piloté à distance?
Non, des vrais en Angleterre avec des gens sur place.
Bureaux, super. Ouais. Alors oui, alors petite question que je pose à tous les invités, un peu la question à la pivot, c'était goût en matière de création. Là, je sors un peu plus de l'ADS, mais je vais plus dans l'univers de la créa. Donc ça peut être film, ciné, série télé, musique, BD, voilà, des choses qui t'ont marqué.
Oh, c'est assez large. Alors, d'un point de vue business, moi, je lis pas trop de livres business, par exemple. Je trouve que je préfère lire de la vraie littérature.
Détends un peu dans le perso.
Ouais, non, mais voilà, c'est. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça.
T'es pas que en bio d'Elon Musk.
Non. Je préfère voir. Je suis assez podcast, par contre, B2B. Mais sinon, sur les goûts, moi, je suis. Enfin, évidemment, je suis un très gros fan de musique depuis toujours. Moi, je voulais travailler dans la musique quand J'ai travaillé un peu chez Warner Music et puis après j'ai bifurqué ailleurs. Mais
tu voulais faire quoi? Chanteur, chant ou instrument?
Ah non, moi je voulais travailler, je voulais
être directeur, label.
Ouais, je voulais être directeur artistique. Ce qu'a failli se faire, mais ce qui s'est pas fait parce que je suis arrivé à une période où tout le monde s'est fait virer.
Tu voulais décider des disques et tout ça.
Exactement. Ça, c'est... Et je pense que j'aurais été.
T'as dû voir la série sur Spotify, non? T'as pas vu sur Netflix ou Amazon sur la création de Spotify? Ah bah je te recommande cette série.
Ah toi si, qui adore si, j'ai vu ça.
Ouais. T'as dû la voir.
Ah ouais. Donc voilà, musique, surtout musique. Alors j'ai plusieurs périodes. Enfin, je suis assez rock en général. Donc 70s, 90s, gros fan de Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains pour les gens qui se reconnaîtront. Gros fan de Depeche Mode historiquement. J'écoute beaucoup de classiques aussi parce que j'ai un fils qui est au conservatoire, donc je suis abreuvé de piano.
Et tu joues toi, tu continues à...
Ouais, moi je joue de la guitare depuis toujours et je joue toujours un peu en groupe.
T'es en mode Michael J. Fox dans Retour vers le futur.
Ouais, c'est ça.
Ok, super. Et alors Olivier, la toute dernière question que je pose traditionnellement, c'est le conseil que tu donnes à un ou une jeune qui veut se lancer dans la tech, dans ce monde que tu...
Dans la tech, pour se lancer, c'est pas très compliqué parce que tout le monde recrute. Donc je pense que si vous êtes à peu près sérieux et motivé, vous allez trouver du boulot tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est... moi, ce que j'aime dans la tech, c'est d'abord le côté tech B2B, c'est-à-dire la capacité de créer un vrai produit. Le monde des agences m'intéresse moins professionnellement, quoique c'est intéressant parce que ça permet de voir plein de cas différents et traiter des gros budgets. Mais moi, j'aime bien construire un truc. Donc, depuis 15 ans, je suis vraiment dans l'univers des SaaS parce qu'on bâtit des vraies plateformes qui vont être utilisées par les clients et qui se construisent au fur et à mesure. Donc, il y a toute la dimension produit aussi qui m'intéresse. Donc, ça, c'est intéressant. J'encourage aussi tous les gens à créer une boîte au moins une fois dans leur vie. Moi, je l'ai fait 3 fois.
Ah oui.
Pas avec des succès phénoménaux. Mais
dans quoi tu avais créé?
Alors là, j'avais créé une première boîte de prod dans le streaming vidéo après avoir travaillé chez Readmidem. Tu avais travaillé?
Readmidem. Readmidem. Et moi aussi, j'ai bossé pour Readmidem.
On s'est pas croisé.
Peut-être qu'on s'était croisé là-bas. Et chez Readmidem, tu étais dans quel style de... Dans quel parcours?
Alors, Readmidem, je m'occupais des communautés de créatifs et de développeurs pour les faire venir sur les salons. Et après, j'avais créé une boîte avec deux amis dans le streaming vidéo. Et après, j'ai créé une autre société de conseil en application mobile. Et puis j'ai créé Jamset dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc je trouve ça très intéressant que ce soit quelqu'un qui veut faire de la tech ou pas, quelqu'un qui veut faire de la tech d'un moment d'être, essayer d'être entrepreneur, surtout quand on est jeune, on n'a pas.
T'as tiré quoi comme leçon de ces expériences? Parce qu'on sait que c'est un gros morceau, hein, les gens idéalisent la création, mais on sait que c'est faut tenir sur la longueur. C'est quand même un gros challenge. Toi, t'as eu quel apprentissage là-dessus?
Ça apprend l'humilité. Ça apprend le fait que même quand on vient d'une autre boîte, du jour au lendemain, ou quand on crée sa boîte, ben les gens vous donnent pas forcément les bons tips pour avancer ou les bons contacts. Donc on repart à zéro et ça c'est très bénéfique. Ça apprend à investir son propre argent et quand on fait de la pub, c'est pas la même chose de travailler en agence avec l'argent des autres et de créer sa boîte et de mettre son propre argent. Ça vous met en perspective aussi plein de choses que vous faites par la suite et ça vous apprend à tout faire. Donc c'est intéressant de bosser dans des grosses boîtes pour avoir la structure, le process, et dans des petites pour être capable aussi de faire plein de choses. Et moi aujourd'hui,
doueurs comme on dit,
les doueurs. Et moi j'adore les doueurs en général.
Bon bah super. Et bah merci beaucoup Olivier. Ça sera le mot de la fin. J'adore les doueurs. Ravi Olivier de que t'aies pu faire ce podcast sur le thème original du marketing local. Merci à toi.
Merci Alexis. Au revoir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.